à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Xavier Pathé, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être venu pour ce troisième entretien où nous parlons, nous avons parlé dans les deux premiers de votre ouvrage « La confiance fabrique-t-elle ? Essai sur la mort des élites républicaines ». Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, que vous avez participé à plusieurs cabinets ministériels et même au cabinet du président de la République, du président Chirac, que vous avez côtoyé donc ce monde de la politique de près. Vous êtes vous-même membre de la Cour régionale des comptes, donc vous avez regardé, y compris dans les territoires, la politique au quotidien. Et toute cette carrière vous a donné un certain recul, et l'écrivain que vous êtes, parce que je rappelle que vous avez écrit 14 romans, une pièce de théâtre, 9 essais, donc vous êtes quelqu'un qui produit beaucoup chez les grands éditeurs. Et donc ce regard que vous portez sur la politique, pour notre troisième entretien, on va rester sur ce sujet, qui est celui que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui, c'est celui au fond de cette séquence que nous avons vécue au mois de décembre au sujet de la loi sur l'immigration. On a eu le sentiment, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, que c'était une surprise, finalement, que le Parlement, ou que les assemblées, et en particulier le Sénat, puissent bloquer un texte émanant du gouvernement, et que c'était presque invraisemblable que le Sénat puisse dire qu'il n'était pas d'accord avec un texte gouvernemental, et que l'Assemblée nationale, finalement, ne soit pas d'accord complètement avec le Sénat, finisse par se mettre d'accord sur un texte de compromis. Et là, on a entendu tout et son contraire. Sauf que dans une démocratie parlementaire, on pourrait penser que ce serait l'ordre normal des choses. Donc, comment vous vous situez-vous dans cette séquence du mois de décembre?
Elle était finalement assez prévisible, pas forcément sur ce thème-là et à ce moment-là, mais assez prévisible dès lors qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il faut revenir à ce que le président de la République, au moment de la campagne législative, je me souviens, sur un tarmac d'aéroport, il partait à l'étranger, il parle toujours à des endroits où on ne s'attend pas, il a dit qu'il fallait absolument qu'il ait les clés, il fallait absolument qu'il ait une majorité à l'Assemblée, sinon en gros c'était moi ou le chaos. C'était en gros ce qu'il avait dit. Et moi je faisais partie de ceux qui, en entendant ça, étaient surpris parce que la Ve République a été inventée pour permettre au gouvernement de faire son métier sans majorité à l'Assemblée. C'est ça qu'on a voulu en 59, ce qu'on appelait le parlementarisme rationalisé. D'ailleurs, le premier gouvernement doré n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il a fait des très grandes réformes. Ça demande seulement un peu de savoir-faire et un peu d'écoute. Et lorsqu'on a vu que l'Assemblée nationale élue n'avait pas de majorité absolue, c'était pas une catastrophe. C'était même un cas de figure totalement envisagé par les institutions de la Ve République. C'était une catastrophe dans l'idée du président qui nous avait dit, mais ça veut dire, là, il avait transformé un aléa en véritable désaveu. Mais à ce moment-là, on aurait pu espérer encore quelque chose, c'est-à-dire que cette majorité relative, qui rendait un rôle pivot, par exemple, au groupe des Républicains, qui redonnait au Sénat une certaine importance, allait permettre de refaire de l'Assemblée nationale ce qu'elle aurait toujours dû être, c'est-à-dire une forge à idées, un endroit où on se confronte et on bâtit des majorités d'idées. Et on voit qu'il n'en est rien arrivé pour tout un tas de raisons, y compris des raisons de pure forme. Je pense que dans ce qui s'est passé en décembre, on n'a pas assez insisté sur le fait que les députés, je parle de ceux de la France insoumise, je parle de ceux des Républicains, je parle de ceux du Rassemblement national, étaient un peu fatigués d'être méprisé dans les réunions par le groupe qui avait la majorité relative. Et en fait, ça a été une vengeance d'amour propre. Ça a joué un rôle important sur le texte. Après, il y a le fond du texte.
Oui, il y avait quand même une différence de vue assez nette entre la droite et la gauche. Oui. On a quand même un peu le sentiment que c'est réhabilité un clivage droite-gauche qui avait un peu disparu.
On peut dire ça. En tout cas, ça réhabilite le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement a montré qu'il était capable d'abord d'avoir un avis, ensuite de le formaliser, et peut-être de représenter ce que voulait le peuple. Parce qu'au fond, ce que la majorité des députés reprochait au projet gouvernemental de loi sur l'immigration, c'est qu'il n'était pas exactement ce que les Français souhaitaient.
D'ailleurs, oui, il y a eu quelques sondages qui ont été très clairs.
D'ailleurs, le président de la République, à l'automne, avait dit « on va peut-être faire un référendum », puis il a dit « on ne fera pas de référendum ». Donc les gens ont retenu l'idée que quand même c'était un sujet qui les concernait et sur lequel leur avis devait compter. Et les députés, de ce point de vue-là, en l'ont relayé. Alors après... Après, on a eu un spectacle qui était finalement logique, c'est-à-dire que le chef de gouvernement, le gouvernement a essayé de trouver une issue sur la voie d'un compromis. Ça me paraît plutôt pas mal, à condition d'aller au bout de la logique, c'est-à-dire imposer ou en tout cas inciter fortement à un compromis pour immédiatement après annoncer qu'on va, il nous plaît pas et qu'on va saisir le Conseil constitutionnel. C'est assez paradoxal parce que les gens se disent, enfin moi je me dis... toute cette pantalonnade termine par un nouveau pas vers le gouvernement des juges. C'est-à-dire que le président de la République va dire finalement c'est M. Fabius, ancien maire de Grand Quevilly, sauf erreur, qui va trancher. Ça, c'est un autre sujet, mais la prise de pouvoir, notamment à travers l'extension du bloc de constitutionnalité par des juges nommés... au constitutionnel, va finir par poser problème aux Français, parce qu'ils aimeraient bien quand même qu'on les écoute aussi. C'est ça qu'on pourrait retenir de cet épisode. Mais bon, la 5e République a l'air insolide, elle a tenu le coup. Et finalement, elle a montré une fois de plus qu'elle était quand même solide.
Oui, mais pour en revenir au fond, le contexte dans lequel évolue notre 5e République, c'est vrai qu'elle a été construite pour... un équilibre entre un gouvernement qui propose et un Parlement qui vote des textes et qui donc a son mot à dire. Pendant longtemps, les députés et les sénateurs se sont plaints de ne pas être entendus par les gouvernements successifs et donc on regrettait ça. Et là, tout d'un coup, on retrouve le sentiment que effectivement le Parlement a du poids, a du pouvoir, parce qu'il y a une majorité relative, c'est une majorité, mais elle n'est pas absolue, et donc ça ne peut pas être une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale, donc ça redonne un équilibre des pouvoirs. Sauf que dans ce contexte, on a besoin quand même que des partis de gouvernement émergent. Et c'est un peu la difficulté, me semble-t-il, mais c'est une question en même temps. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que Macron s'étant, et son gouvernement s'étant situé au centre de l'échiquier politique, il a capté la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement, et au fond, il a repoussé l'opposition et donc l'alternance aux extrêmes. Alors, l'extrême gauche est relativement discréditée parce qu'on sent bien qu'elle n'est absolument pas homogène sur la plupart des questions. En revanche, l'extrême droite, ou la droite un peu plus radicale, paraît beaucoup plus cohérente, beaucoup plus centrée sur un certain nombre de questions et semble tirer les marrons du feu. Mais ce sont les extrêmes, ce ne sont pas ce qu'on appelait autrefois les partis de gouvernement. Donc, à votre avis, comment ça peut évoluer? Oui, parce que les échéances ne sont pas loin. Là.
Au cœur du sujet, il y a l'idée, je pense, que le macronisme se présente comme le système, c'est-à-dire l'alternance au macronisme. C'est ça qui est dans tous les discours depuis 2017. L'alternance au macronisme, c'est les extrêmes. Autrement dit, c'est nous, c'est-à-dire en fait le pragmatisme...
Ou le chaos.
Ou le chaos. Sauf qu'à force de jouer à ce jeu-là, les gens vont venir par miser sur le chaos parce qu'ils sont un peu fatigués finalement de l'extrême-centre. Et il faut arriver, c'est ça l'enjeu politique maintenant, à dire il y a une alternative de gouvernement qui n'est pas aux extrêmes. Alors c'est compliqué parce que les partis traditionnels, à commencer par le Parti Socialiste et les Républicains, sont dans une mauvaise passe. Mais peut-être pas forcément dans une impasse. Mais c'est une folie de dire « moi ou le chaos » parce que ça veut dire « demain le chaos ». Et, oui. Et à force de susciter la peur du chaos, on finit par susciter un désir de chaos. C'est de la psychologie de bas étage qui le dit. Et donc, sur le plan politique, il est très important de montrer que ce chantage est inadmissible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix entre la normalité macronienne et la délinquance, qu'elle soit du Rassemblement national ou de la France insoumise, ça n'est pas ça. Les termes du débat, c'est qu'il y a effectivement une droite, il y a effectivement une gauche, que la droite comme la gauche sont des courants républicains, compatibles avec nos libertés, et qu'on a le droit d'en parler. Et puis également sortir de la schizophrénie, parce que dire qu'il y a des votes nauséabonds lorsque les partis sont subventionnés par nos impôts, c'est pas possible. Il n'y a pas un vote délinquant. Sinon, c'est le parti qui est délinquant. Alors pourquoi est-ce que le parti délinquant est subventionné? Et donc il y a au fond aussi la crise du respect de l'adversaire. Il n'y a jamais eu un très grand respect de l'adversaire. Il n'y a jamais eu un très grand respect même de la majorité. Rappelez-vous, sur la Ve République, quand il y avait une majorité, il y avait les députés godillots. Jean Charbonnel, qui était pourtant un vrai UDR, disait « on en a marre d'être des godillots ». Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Simplement, ce qui aggrave le sujet, c'est que maintenant, les godillots, on leur marche dessus. On ne marche pas avec, on leur marche dessus. Et c'est pour ça que le Parlement vit cette crise-là. Le positif, c'est le retour de la politique au Parlement, moi je trouve.
Oui, ça, je partage votre point de vue, mais il y a un autre point de vue qui consiste à dire il est temps de changer les institutions, de changer, donc de sortir de la Ve République pour écrire une nouvelle constitution, une VIe République. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense beaucoup, beaucoup de mal, parce qu'il est temps de revenir à l'esprit des institutions. La Ve République, si on n'avait pas eu les institutions de la Ve République, je pense que Hollande n'aurait pas terminé son mandat. Je pense que Emmanuel Macron aurait beaucoup de mal à finir son deuxième mandat. Je pense que ce serait passé beaucoup de crises qu'on n'a pas eues, parce qu'on a des institutions qui sont à la fois souples et solides. Et donc, il faut revenir à l'esprit. L'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un président de la République qui, depuis 1962, est élu au suffrage universel, sur un projet. Que deuxièmement, en cas de conflit entre une majorité au pouvoir et le peuple, ou entre une majorité et un gouvernement, l'arbitre, il n'y en a qu'un, c'est le peuple. Ça s'appelle la dissolution de l'Assemblée nationale, ou ça s'appelle le référendum. Je pense que revenir à l'esprit de la Ve République, par exemple, dans un cas de blocage comme actuellement, c'est la dissolution. Alors évidemment, tout le monde sait bien qu'il n'y aura pas de dissolution, parce que les macronistes nous disent « Oui, mais la dissolution, vous voulez donner les clés au Rassemblement national. » Ce à quoi on peut leur répondre « Mais si vous ne croyez pas à l'élection, supprimez l'élection. » Une élection, ça coûte un gros bilan carbone, il faut imprimer du papier, il faut avoir des bureaux de vote, il faut faire des sandwichs. Donc supprimons l'élection, c'est ça que vous voulez. Certains sont pas loin de le penser, on commence à nous dire, vous savez, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est peut-être pas une très bonne idée parce que c'est un boulevard pour le populisme. Allons au bout, supprimons l'élection. Qu'est-ce qu'on va créer?
Oui, d'ailleurs,
pouvoir héréditaire. Donc il faut assumer le fait que quand il y a un conflit, on en sort dans la République. Par le recours aux Français, c'est-à-dire
ouais,
aux élections,
au suffrage universel.
Avec le risque que ça implique.
Eh bien, merci pour cette plaidoirie pour la Ve République et pour la solidité de nos institutions qui sont quand même, comme vous, je le pense, un sacré garde-fou contre toutes les dérives totalitaires. Monsieur Pastier, merci.